9h23 minutes, Bertrand Dumont, qui est souvent à notre micro, nous partage ses expériences, ses conseils pour réussir le potager en pot sur un balcon ou encore sur une terrasse. Il y a le livre, il y a des balados. Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Là, c'est vrai, là, c'est un peu ton courant dominant, là. C'est-à-dire, on n'est pas juste dans la décoration, l'aménagement, on est vraiment dans des trucs. Comment se nourrir, par exemple, en ville?
Oui, ben je vais te faire une confidence. Cette semaine, j'ai vidé à peu près tous les livres qui concernaient l'horticulture ornementale de ma bibliothèque.
C'est vrai?
Et j'en ai fait un don au jardin botanique parce que je veux quand même pas les mettre à la poubelle. Mais oui, je ne me consacre presque plus qu'exclusivement au potager.
Pour quelle raison?
Pour quelles raisons? Pour des raisons environnementales principalement, parce que je pense qu'on sait qu'on a une crise environnementale, mais on se dirige vers une crise alimentaire. Tout ce qu'on vit actuellement, et je parle des inondations, là, ont une influence. Ok, la Pachamama, là, comme disent les gens du Sud, c'est notre terre-mère. Si notre terre est maganée, comment on va produire? Et on sait aujourd'hui que tous les grands systèmes agricoles sont après détruire la terre. On le dit pas, là, mais actuellement, les engrais chimiques, les pesticides abîment de la terre de telle manière qu'il faut continuer à défricher. On peut plus, c'est fini. Et si on le voit, on nous annonce déjà des coûts de la nourriture qui vont augmenter. On a aussi des changements drastiques. Les gens mangent de moins en moins de viande et de plus en plus de légumes. Ok, et donc le prix des légumes a tendance à augmenter parce qu'on n'a peut-être pas toutes les ressources nécessaires. Alors c'est cette vision là. C'est aussi toute cette vision de produits chimiques qu'on nous fait bouffer là. Alors je vais peut-être étonner quelqu'un, mais le glyphosate c'est pas dangereux. Mais la répétition continuelle de petites doses de glyphosate est extrêmement dangereuse. Alors le produit, lui, peut-être, il n'est pas dangereux, c'est effectivement quand on le regarde, quand on est dans... mais la répétition continuelle des produits chimiques, et c'est là qu'on a un énorme problème, c'est qu'on continue continuellement là, à avoir des produits qu'on a dans le sang puis qu'on n'arrive pas à défaire. Et l'agriculture urbaine nous permet donc de produire quelque chose de naturel selon nos critères.
J'imagine que tu as suivi toute la saga de l'agronome Louis Robert,
oui,
qui a été congédié par le ministère de l'Agriculture, oui, qui lui prétend qu'on peut produire avec moins de pesticides,
absolument,
qu'il y a des techniques qui permettent aux agriculteurs et à pas se lancer dans des investissements, par exemple, pour l'irrigation.
Exact.
Des trucs. Tu crois à ça, qu'il y a moyen de produire?
Absolument. Moi, j'ai vu le fameux reportage sur Louis Robert. C'est extraordinaire. Et il est pas tout seul à le dire. Parce qu'il y en a d'autres en France, la famille Bourguignon, le couple Bourguignon, pardon, qui disent exactement la même chose depuis 20 ans. C'est deux agronomes du ministère de l'Agriculture en France, ok, qui ont, il y a 20 ans, ont démissionné en disant on est complètement dans le champ et qui font aujourd'hui de l'agro-agriculture et qui ont créé le premier laboratoire de microbiologie du sol. Et quand on lit leurs écrits, c'est absolument fantastique et hallucinant en même temps. Et Louis Robert est complètement dans la bonne direction, ok. Effectivement, je lisais aussi le document du président de la COP fédérée qui dit le consommateur est pas constant. Et pour moi, l'agriculture urbaine, c'est aussi une manière de revenir constant parce que les gens ont perdu ce fil conducteur, hein, on s'en va, on achète les produits bio, puis on rentre chez soi. Mais en le produisant soi-même, on voit le processus que c'est, puis l'importance que ça a, et on lui redonne de la valeur.
Qu'est-ce que ça prend pour produire?
Ça prend deux choses. Ça prend un petit peu d'argent, pas beaucoup, puis du temps. C'est surtout le temps que ça nous prend.
Mais de l'espace, un peu?
Un peu d'espace, mais là, avec le potager en pot... un petit balcon, parce que on va pas tout produire, mais on peut produire un petit peu, ok? Donc, c'est surtout du temps, un petit peu d'argent. On considère, dans le potager à impôt, c'est un peu moins vrai, mais on considère que dans un potager ordinaire, pour chaque dollar d'investi, on va récolter 7 à 10 dollars
de légumes.
1 dollar, 7 dollars, là, trouvez-moi un conseiller financier qui me fait un rendement comme ça, là, puis je le prends tout de suite, là, ok? Ça, c'est un très gros avantage. Donc, il y a ça. Donc, c'est pas des dépenses faramineuses. On peut s'en sortir en faisant attention, puis parce qu'effectivement, là, l'industrie va se mettre à produire des affaires qu'il faut acheter, puis on n'est pas obligé. Donc, il y a ce côté-là. Puis c'est du temps, surtout, un petit peu d'organisation. Puis moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres, c'est un peu de l'organisation, un petit peu du temps.
Mais tu y vas de façon très détaillée, c'est ça qui...
Oui.
Tu vois aussi tel type de pot, par exemple, quelle quantité de terre il faut ajouter.
J'ai produit un tableau dans mon livre qui est unique, qui dit la quantité de terre pour chaque plante. Okay? Donc ça, c'est vraiment particulier à mon livre. Il y a personne. J'ai travaillé quelques semaines là-dessus. Là, c'était assez long de faire des calculs et de retrouver à partir de toutes sortes d'informations. J'ai simplifié ça pour le grand public. Puis maintenant, j'ai mon balado avec Janine.
Oui.
Donc, Radio Légumes et compagnie, ce qui fait rire beaucoup de monde, mais...
J'ai écouté un balado hier, mais c'est amusant et on apprend plein de trucs.
C'est ça, on apprend plein de trucs. Donc, le balado, pour la petite histoire, j'avais trouvé un titre de travail qui s'appelait Radio Légumes, puis tout le monde parait quand il dit Radio Légumes, faut que je le garde du coup là.
C'est très bien.
Mais c'est ça, c'est de donner aux gens des outils simples, faciles à utiliser. Moi, mon truc, c'est pas juste le potager, c'est facile et naturel. Faut que ce soit facile, puis aussi naturel. Puis comme je dis aux gens, énervez-vous pas, vous serez pas certifié bio, mais on s'en fout un peu d'être certifié bio tant que vous faites attention. Et moi, c'est toute cette vision là. Et le problème que j'ai avec l'environnement actuellement. Tu vas me dire, là, je suis champ gauche, là. Mais pour moi, le problème qu'on a avec les signes religieux est le même qu'on a en environnement. On est sur des droits unitaires, des droits fondamentaux personnels. Et on pourra pas s'en sortir en environnement tant qu'on fera pas des droits collectifs et non pas des droits individuels. OK? Quelque part, l'environnement ne peut pas être sauvé avec des droits individuels. OK? Donc, le chemin que je préconise, c'est de commencer par reprendre ce chemin individuel, que chacun commence à se rendre compte que c'est que faire de la nourriture. Puis peut-être qu'avec ce chemin-là, on va finir par voir une vision collective des choses et de se remettre ensemble, parce que effectivement, c'est pas en mettant chacun un sable de sable en vendant sa maison qu'on va y arriver, là. Il faut penser beaucoup plus large, puis il faut penser collectivement. Mais on est dans une société où les droits individuels ont pris une telle place que c'est très, très compliqué.
Disons que je veux démarrer ma production.
Oui.
Qu'est-ce qui est le plus facile à faire?
Le plus facile à faire...
Et là, le risque de me tromper est...
Quasiment nul.
Et regarde-moi, là.
Oui, je te regarde.
Bon, alors, un gars comme moi, là, qui est
quasiment
pas bon...
Quasiment nul.
Qui est très nul.
Tomate,
OK.
Tomate, ça, c'est le truc, le tomate basilic, OK?
OK.
Avec une petite différence, un petit truc pour le basilic, mais tomate basilic. Ça, c'est les deux affaires les plus faciles à réaliser, OK? Surtout si t'achètes un pot... t'achètes de la terre, de la bonne terre de qualité, puis tu mets environ 40 litres de terre, puis tu mets ça dans ton puis même si tu voulais être encore plus simple, t'achètes un litre de 42 de t'achètes un sac de 42 litres de terreau, tu fais un trou dedans, puis tu plantes ta tomate dedans, puis ça va réussir, OK? Ça, c'est le truc le plus basique, OK? Les tomates en général, c'est assez facile à faire, OK? Le basilic, c'est intéressant aussi, parce que tomate basilic, ça fait déjà le plat, et le plat, il suffit de rajouter les bocconcini là. Donc c'est le plat est déjà fait. Les seules choses basilic, faut pas les planter trop tôt parce qu'ils aiment pas la chaleur. Ça, c'est vraiment la tomate basilic, c'est le truc le plus basique qu'on peut faire là. Il y a aussi un autre truc assez facile à faire, c'est le mesclun. OK? Le mesclun ou la roquette qui sont des trucs qu'on le mesclun on paye ça des fortunes, alors que finalement on peut se mettre ça dans un pot très facilement, on récupère ça, on se fait un peu de salade avec ça, c'est très très facile. On peut même mettre les tomates dans le pot, puis avant de récolter les tomates, on se fait un peu de mesclun, on récolte du mesclun. Alors, un peu de mesclun,
mais
un peu de tomate.
Mais quand tu plantes, après ça, tu fais quoi? Faut que t'arroses?
Oui, faut que t'arroses. Si on prend un produit de qualité dans les terreaux, là, moi je suis toujours... C'est assez drôle dans mon livre parce que j'explique comment faire un terreau, puis à la fin je leur dis c'est tellement compliqué de faire un bon terreau que acheter le donc ça va être plus facile, mais je voulais montrer aux gens que c'était pas juste mettre deux trois morceaux de terre ensemble, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc c'est une technologie qui est transférée parce que c'est les mêmes produits qui sont vendus aux professionnels que nous on a accès, donc c'est un peu ça. Mais c'est du terreau, au pire aller une fois de l'engrais. Et là encore, je dis, oubliez ça, là, c'est pas besoin d'avoir de l'engrais à tomate, là, un engrais va suffire, et de l'arrosage. L'arrosage est souvent le problème majeur, là, mais moi, ce que je fais, c'est que j'ai un système d'irrigation. Parce que j'ai tout essayé avec l'arrosage, j'ai demandé à mes enfants qui m'écoutent, puis c'est pas tout à fait la bonne solution. J'ai demandé au bon voisin, c'est pas la bonne solution. À mon beau-frère, il a tout bouffé, fait que j'ai mis un système d'arrosage là, mais un petit système d'arrosage là. Et c'est pour ça que je milite aussi que tous les condos neufs devraient avoir des sorties d'eau sur les balcons là, parce que c'est souvent il faut aller chercher l'eau à l'autre bout de la maison. Donc une sortie d'eau sur les balcons dans les condos neufs, normalement avec ça c'est assez facile. Donc on peut se mettre un petit timer, puis avec un petit système d'irrigation.
Quand est-ce que je devrais partir seul?
Ah, la fête de la reine. La fête de dollars, pardon.
La journée des patriotes.
Si Gilles m'écoute, je vais me faire tuer.
OK, ça, c'est la date idéale pour lundi là, de congé.
C'est la date idéale. Cette année, là, il va falloir faire attention parce qu'on a un hiver. Ah oui, un hiver qui se prolonge, on a un printemps. Mais moi, j'ai pas été... Peut-être tout le monde s'énerve, là, mais... Tous les ans, c'est pareil, là. On est en avril.
Ben, ça fait quelques années que c'est comme ça.
C'est comme ça. Puis... Moi, ce que je remarque, et puis cette année, je suis assez confiant, parce que ce que je remarque, c'est que les années où on a un printemps qui est très hâtif, puis d'un coup, whoop, on retombe dans le froid, on a des difficultés à remonter dans le chaud. L'année dernière, on a eu un printemps extraordinaire parce que ça a pris du temps, mais quand il est parti, il est resté, puis là, on a eu du beau temps. Fait que dès que la température commence... Disons qu'en réalité, le truc pour nous, c'est 10 degrés la nuit. Là. Quand on commence à avoir 2-3 journées à 10 degrés la nuit, là on peut commencer à planter. Là.
Qu'est-ce qui est difficile à faire?
Les choux.
OK.
À cause de la pyrite du chou, c'est ce qui est le plus difficile à faire. C'est très, très attaqué. Là, les brocolis, les choux, c'est compliqué. Ça demande plus d'utiliser un peu des biopesticides, des choses comme ça. Là, puis après ça, bon, c'est des légumes exotiques. Parce que les légumes exotiques, on n'a pas beaucoup de connaissances comme les okras, les choses comme ça. Là, un truc qui est très facile à faire, mais très compliqué, c'est le topinambour. Le topinambour, c'est super facile à faire, mais c'est une plante qui est super envahissante. Fait quand on, si on la met dans le jardin, là, ça part de tous les bouts. Moi, je l'ai fait en pot et c'est assez facile. J'ai même fait des pommes de terre l'année dernière dans mes pots. Là.
Fait que, fait des pommes de terre?
Oui, j'ai fait des pommes de terre dans mes pots. Là. J'ai pas inondé le marché de pommes de terre, là, Paul. On s'entend, là. J'ai récolté 1,5 kg, 2 kg de pommes de terre avec 4 pommes de terre. J'ai fait environ 2,5 kg de pommes de terre, là. Mais c'était les pays meilleures pommes de terre au monde. Tu comprends bien, quand on les a mangées, c'était quasiment...
C'est un rituel.
Un rituel, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était mes propres pommes de terre qu'on avait fait dans les pots. Donc, il y a toutes sortes de choses, là. Puis, moi, ma grande philosophie aujourd'hui avec le jardinage est la suivante. Elle est simple. Elle dit, on lit tellement de choses, puis alors, excusez, mais tellement de conneries sur Internet, là. Parce qu'il y en a, hein. Je peux te dire que j'avais commencé à une époque à essayer de remettre les fake news un peu droite, là, mais j'ai démissionné. Ouais. J'ai dit, je vais faire ça toute la journée, puis je vais me faire insulter. Il y a un jour quelqu'un qui m'a insulté en disant, qu'est-ce que vous y connaissez? Il y a quand même quelqu'un qui a répondu, est-ce que tu sais à qui tu parles? Il faudrait bien te faire attention à ce que tu dis. C'est assez drôle. Mais, moi, je leur dis, ce qui marche chez vous, c'est la bonne solution. OK? Puis c'est pas parce que dans le livre on dit le contraire que ça marche et que ça marche chez vous. Faites-vous confiance. Je pense que c'est surtout une question de confiance. Il y a un lien manquant, notamment chez les baby boomers qui, moi j'ai entendu pendant une bonne partie de ma carrière les baby boomers à qui on parlait potager puis ils disaient, hey, j'ai assez bûché dans le potager quand j'étais jeune, je veux plus rien savoir. Mais dans mes conférences, je vois de plus en plus de baby boomers qui tombent à la retraite et qui disent, on a le goût de recommencer. Léger, plus facile, mais on a le goût de retrouver ce...
Mais à une époque, c'était l'aménagement paysager, les gens qui passaient leur week-end à...
Et c'est encore comme ça pour beaucoup. Moi, je me bats en partie contre l'industrie pour dire, mais faut arrêter là, les pelouses, tout ça. Oui, il en faut. Je dis pas qu'il en faut pas, mais faut arrêter d'être toujours dans l'ornemental, parce que l'ornemental, c'est mono-intérêt. C'est beau puis ça finit là. C'est bon pour l'industrie, mais ça s'arrête là. Alors que le potager, c'est énorme, parce que j'ai travaillé là, j'ai donné une conférence l'année dernière dans le quartier La Flèche à Saint-Hubert, qui est un des quartiers là les plus défavorisés. Ils avaient commencé avec 2 potagers, mais là ils sont rendus avec 12 potagers là, parce que pour ces gens-là, c'est pas seulement de cultiver des légumes, c'est de cultiver de la fierté. Ces gens-là, ils se retrouvent, ils sont souvent désocialisés, ils ont des problématiques, et là tout d'un coup ils se retrouvent à être ensemble, à travailler ensemble, à produire de la nourriture qu'ils peuvent manger, et c'est extrêmement bon pour l'ego de cueillir sa propre tomate qu'on a parti, on a mis un petit plant, puis de produire quelque chose. Tu sais, on a pu aujourd'hui dans nos sociétés, on est beaucoup dans le service, et dans le service c'est très éthérique, alors que retrouver le goût de la tomate, celle qu'on a cultivée, qu'on prend, qu'on coupe et qu'on donne à ses enfants, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Il y a une expérience humaine qui vous paraît un petit peu drôle ce matin, mais
non, mais c'est vrai,
qui est extraordinaire, et les gens vont se ressentir là-dedans, ok, et ça leur redonne confiance. Et les gens à qui j'ai parlé cette année me disent, c'est énorme ce qu'on arrive à faire avec ça. Donc pour moi, c'est pas juste du potager urbain, c'est pas juste de l'horticulture comestible, c'est toute une manière de réapproprier la société. Et j'ai retrouvé honnêtement un certain goût du jardinage que j'avais perdu depuis quelques années. J'étais un peu sur le pilote automatique, mais j'ai retrouvé parce que j'ai l'impression que je suis utile en faisant ça. Il y a une utilité qu'on n'avait pas dans l'ornemental. Et pour moi, l'ornemental... J'ai même écrit un article sur mon blog il y a un an, en disant que dans 35 ans, l'ornemental n'existerait plus. Mais l'ornemental n'aura existé que 65 ans. Parce qu'il y a 65 ans, on faisait pas d'ornemental. On avait besoin de se nourrir. Donc c'était cette propension-là à se nourrir.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ça fait plaisir.
Je rappelle le titre du livre, Le potager en pot, c'est aux éditions Multimonde. Et il y a Radio Légumes et compagnie pour les balados.
Les balados.
Parfait. Je vous donne tout de suite la question de tribune téléphonique. François Legault a planté l'idée de dire aux gens qui habitent dans des secteurs à haut risque pour inondation, vous devriez peut-être penser à déménager. Et il fait ça très doucement, très poliment. Lance quelques fourchettes de prix pour dédommager. Mais j'aimerais peut-être d'abord, un, céder l'antenne aux gens qui vivent dans ces secteurs-là. Est-ce que ça vous tente de quitter? Puis là, il y a différents moyens qu'on peut regarder. Puis comme contribuable, de fixer un plafond au remboursement en disant, écoutez, on peut vous dépanner quand ça arrive une fois, peut-être deux fois, mais quand on voit les changements climatiques, quand on voit que ces inondations vont non seulement se répéter dans des endroits déjà identifiés, mais qu'il y en aura de plus en plus de ces endroits, ben est-ce qu'on ne doit pas quitter les bords de l'eau et aller s'installer ailleurs? 514-790-9850. 514-790-9850. Est-ce que ça vous tente de déménager pour éviter les inondations? Vous préférez rester là-bas? Puisqu'on doit continuer à dédommager. 514-790-9850.